Bien entendu, vous commencez vous aussi par un hommage à Jacques Brel. Sur quelle chaîne, en fait ?
Bah, c'est normal que vous ne l'ayez pas vu, parce que pour la trouver, il fallait y aller avec la lampe frontale. Un TF1, rien. La 2, pas mieux. La 3, c'est pas là. Non, la chaîne qui aujourd'hui propose toute une soirée à Jacques Brel, eh bien, c'est Paris Première, avec d'abord la diffusion d'une comédie de génie, pour moi, L'Emmerdeur, Édouard Molinaro, 1973, avec Lino Ventura en tueur froid et silencieux, qu'un cocu dépressif et bavard, le premier des François Pignon, va gêner dans sa mission qui est de tuer depuis sa chambre d'hôtel de Montpellier le témoin d'un procès dès son arrivée au palais de justice qui se trouve face à l'hôtel. J'ai retrouvé une archive dans laquelle les deux comédiens parlent l'un de l'autre durant le tournage.
C'est pas à moi de dépeindre les qualités et le reste de Jacques. Je veux dire, tout le monde connaît Jacques Brel, tout le monde sait qui c'est.
J'aime beaucoup Lino pour sa tendresse, pour sa pudeur et pour sa tendresse. Et le restant, je sais pas comment il est. Les hommes se parlent pas entre eux. Ce sont les femmes qui caquettent entre elles en général pour se dire, c'est ça. Mais les hommes, ils se parlent pas beaucoup. Ils se disent pas grand chose, mais j'aime beaucoup Lino. C'est tout.
Qu'est-ce qu'il était misogyne.
Oui, mais c'est pas grave parce que quelques mal que les hommes.
Dès qu'il peut, il en glisse une. Je réécoute très souvent les archives. À chaque fois, je suis stupéfait qu'un homme d'un pareil talent, d'une pareille tendresse balance des trucs
pareils. Mais moi, je vais paraphraser Guitry. Peu importe que les hommes nous soient supérieurs, pourvu qu'ils soient pas nos égaux.
Mais d'accord.
Voilà. Alors maintenant, je vais vous passer un extrait du film. Le cocu dépressif ayant tenté de se suicider et s'étant raté, c'est normal puisqu'il rate tout. Lino Ventura doit l'aider à régler ses affaires s'il veut pouvoir passer aux siennes. Bien sûr, en toute discrétion pour pas attirer l'attention. Sauf que la discrétion et François Pignon, c'est comme la bonne bouffe et la haute couture, ça va pas ensemble. La preuve, sitôt sortie de l'hôtel, notre cocu vocifère.
Elle mangeait plus. Alors j'ai dit, il faut aller voir un médecin. Et c'est comme ça qu'elle est allée chez Fuchs.
Elle est allée voir cette ordure de Fuchs.
Salaud ! Neurologue de mes fesses !
Si vous vous pressez pour un peu, je pourrais pas vous accompagner.
Elle allait le voir tous les jours, hein.
Elle s'allongeait sur le divan. Normalement, il aurait dû rester dans son fauteuil, lui. C'est toujours comme ça, hein. Le malade est sur le divan, et le docteur est à côté, dans son fauteuil. Il pose des questions, il prend des notes, hein. Normalement, c'est comme ça que ça se passe chez un psychiatre. Et ben là, pas du tout. Hop, tout le monde sur le divan. Et moi, je paye 60 francs de l'heure.
Et bien évidemment, tous les badauds les regardent.
Chaque fois, je me fais cueillir par neurologue de mes fesses. Alors, c'est aussi un soir de fiction avec Good Doctor sur TF1, mais pas que.
Oui, mais pas que, même si la série médicale de TF1 du Cousu Main domine le marché face au polar de la 3 Crime Parfait, où ce soir, comme dans Columbo, on sait dès le début qui a tué. Une joggeuse pousse son amant dans l'eau et l'achève. Le téléfilm commence comme ça ce soir. Le commissaire chargé de l'enquête, Philippe Carroix, appelle la proc Claire Borotrin.
Je vous ai envoyé les dépositions des 3 témoins qui étaient censés passer le week-end avec la victime. Je voudrais que vous les étudiez avec attention.
Des failles dans leurs alibis ?
Ah non, au contraire. Ils ont 3 alibis en béton.
Ah oui, je comprends. Ils ont un alibi, donc ils sont suspects. Ça doit être ce qu'on appelle la logique féminine.
Non, ça s'appelle l'instinct. Vous savez, cette petite chose qui fonctionne très bien chez vous.
On peut reprocher à ce polar un ton badin parfois plus déplacé que le corps de la victime. Mais bon, ça se laisse regarder. Et je termine avec les grandes enquêtes, car il y a également ça à la télé ce soir. Sur la 2, un impressionnant Cache Investigation, un an d'enquête comme d'habitude, qui nous montre les dessous plus choc que chic du luxe à la française, sous-traitance, délocalisation, nouveau servage. Ça laisse franchement un peu chiffonner. Et enfin, sur Arte en face, une enquête de 60 minutes montre comment, à coup de fausses informations, 4 seulement étaient des infos vraies, si j'ose dire, contre 28 pour Clinton, Hillary Clinton. Donald Trump donc a su convaincre des citoyens décisifs de voter pour lui. Voilà la conclusion de 2 spécialistes.
On voit qu'environ 70 000 électeurs ont fait pencher la balance pour tous les autres, du fait qu'ils étaient inscrits dans des circonscriptions décisives. Cela montre aussi la vulnérabilité de notre système de collège électoral. Si des logiciels et des données permettent de localiser facilement les électeurs les plus décisifs, au final, cela revient en pratique à affaiblir le vote de tous les autres.
La politique et la démocratie, ce sont les nouveaux domaines déstabilisés par la technologie. On savait déjà que la technologie avait perturbé la presse écrite, le journalisme, la musique. Il ne manquait plus que la politique. Et le grand perturbateur, c'est Donald Trump.
Alors c'est un tout petit peu incomplet dans la mesure où des geeks, il y en a des deux côtés, et on ne comprend pas comment des geeks démocrates n'ont pas pu contrecarrer les geeks de conservateurs. Mais bon, ça, j'ai peut-être pas tout saisi, parce que je suis moins intelligente que vous, alors franchement, dans ce domaine.
Pour son prochain numéro.